différentes. Les caractères sont très différents. Les situations sont très différentes. Tu as toujours la meilleure réponse, la meilleure solution. Et tu te révèles à chacun avec amour, de façon particulière. Et c'est encore, nous le croyons, ton désir ce soir. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous sommes encouragés et réjouis. Parce que nous croyons que ton désir, c'est encore ce soir de sauver. C'est encore ce soir de te révéler. C'est encore ce soir de parler au cœur, de nous encourager, de conduire dans le bon chemin, dans la bonne voie. Ce dont nous attendons de ta part, et nous savons que tu dépasses largement nos attentes et nos espérances. C'est pour ça que nous te bénissons et te glorifions encore maintenant. Amen.
Amen.
Amen. Je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte, la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Galates. Galates au chapitre 6, nous allons lire ensemble à partir du verset 7 et jusqu'au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous notez quatre choses, d'après notre texte, en ce qui concerne les semailles et la moisson. Déjà, en premier, un homme, lorsqu'il sème, il s'attend à récolter. Première chose. Deuxième chose, il s'attend bien sûr à récolter la même sorte de graines que ce qu'il a semé. Troisième chose, il espère évidemment récolter plus. Et puis enfin, même s'il ignore la sorte de semence qu'il a mise, ça ne fait pas de différence. Expliquons un peu tout cela, développons un peu cela. Quand un homme sème, il s'attend à moissonner. Si un fermier allait semer, printemps après printemps, sans jamais rien récolter alors à l'automne, vous pouvez dire, je pense, qu'il est mûr, lui, pour l'asile psychiatrique. Non, il regarde toujours au moment où il va récolter le fruit de son travail. Il ne s'attend jamais à ce que la graine qu'il a répandue soit perdue. Un jeune homme va passer de longues années d'apprentissage pour exercer une profession ou pour prendre un commerce, mais il espère, un jour ou l'autre, récolter le fruit de tout son travail patient. Demandez à un ingénieur pourquoi il travaille si dur pendant 4 ou 5 ans en tentant d'apprendre son métier, et vous répondra qu'il regarde au temps où il recueillera le fruit de ses efforts quand sa réputation, ou sa fortune, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, sa réussite seront faites. Et l'avocat étudie longuement, difficilement, mais lui aussi, il attend le moment où ses clients vont être nombreux et où il sera payé de retour pour son labeur. Un grand nombre d'étudiants en médecine ont bien du mal pendant leurs études pour pourvoir à leurs besoins, mais dès qu'ils ont leur diplôme, dès qu'ils deviennent médecins, ils s'attendent à ce que aussi le temps de la récolte arrive. Bien sûr, ils sont dévoués dans leur travail, mais malgré tout, c'est aussi cela qui a fait qu'ils ont travaillé avec tant d'acharnement et tant de persévérance. Alors, habituellement, il y a un temps entre les semailles et la moisson. C'est la deuxième remarque que nous pouvons faire sur ce point. Vous avez certaines moissons qui mûrissent rapidement, parfois presque immédiatement, mais en général, il faut quand même du temps avant que la semence parvienne à maturité. Et cependant, elle grandit. Pendant tout ce temps, elle grandit. D'abord, la petite pousse verte qui va percer le sol, et puis la tige, et puis l'épi, et puis le grain tout formé dans l'épi, c'est ce que le Seigneur nous dit aussi. Et le fermier n'est pas désappointé parce que toutes ces récoltes ne sortent pas de la terre dans la nuit comme des champignons. Donc, il regarde en avant avec patience, sachant que le temps de la récolte viendra au bon moment, et il en est exactement de même en ce qui concerne la moisson de nos actions, nous aussi. Et peu d'hommes, ou aucun même, ne resterait dans le péché s'il n'entendait pas un profit, s'il n'entendait pas un plaisir Hein, donc, un ivrogne ne boit pas simplement pour le fait de boire, mais dans l'espérance du plaisir présent. C'est vrai qu'il arrive un jour où il est tellement pris qu'il n'éprouve même plus de plaisir et qu'il est vraiment dans une situation compliquée, mais en attendant, c'est quand même comme ça. Un voleur ne vole pas simplement pour voler, mais parce qu'il veut faire un gain rapide et, espère-t-il, profitable. Et je dirais qu'à l'inverse, de la même façon, l'homme bon, eh bien, il ne fait pas des sacrifices simplement pour faire des sacrifices, mais parce que par là, il s'attend à faire du bien, il s'attend à aider les autres, il s'attend à plaire à Dieu. Toutes ces choses sont faites dans un but. On s'attend toujours à une récolte. Et puis vous avez une autre chose, c'est la certitude de la moisson, toujours dans ce point-là. Et le texte nous exhorte à regarder de l'avant, donc vers la certitude de la moisson. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et nous savons qu'il peut y avoir des moissons ratées ou décevantes, mais dans le domaine spirituel, il est impossible qu'il y ait ce genre de faillite. Hein, donc, la terre gorgée d'eau peut faire pourrir la semence, ou le gel peut faire éclater les premiers bourgeons, ou le temps peut être trop humide ou trop sec pour que la moisson arrive à maturité. Mais aucune de ces choses n'arrive à la moisson des actions de quelqu'un. Et la Bible nous dit clairement que Dieu rendra à chaque homme selon ses œuvres. Ainsi, dans Romains chapitre 2, verset 7, nous lisons « Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal. » Et combien nous devons prendre garde à nos œuvres dans tous les domaines de notre être entier, physique, moral, intellectuel, les choses que nous faisons, les paroles que nous prononçons, les pensées que nous nourrissons, tout cela est inscrit et recevra, et tout cela recevra la juste rétribution, car Dieu ne fait exception de personne. Et donc ça c'est notre premier point. Et puis le deuxième, nous avons dit, c'est qu'il ne faut pas négliger donc une autre chose importante, c'est que la moisson est une conséquence automatique des semailles. Dieu n'est pas une espèce de tyran, comme certains s'imaginent, hein, donc il n'est pas assis sur son trône, attachant, je ne sais pas moi, des châtiments à certaines actions, petit bonheur la chance, et pas à d'autres. Au contraire, Dieu a établi des lois. Hein. Alors cela, vous avez certaines lois qui sont naturelles, et vous avez aussi, bien, et j'irai même encore plus fortement, des lois spirituelles. Et la loi des semailles et de la moisson, c'est une de ces lois-là. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous avez parfois des gens qui peuvent peut-être moissonner avec vous, mais personne ne peut moissonner pour vous. Et il faut savoir cela. Et de plus, le texte nous enseigne que cette moisson peut être de deux sortes seulement. Il n'y a que deux directions à laquelle cette loi peut mener. Soit semer pour la chair, ce qui fait moissonner la corruption, soit semer pour l'esprit, ce qui fait moissonner la vie éternelle. Hein? Alors semer pour la chair, ça veut dire quoi? Semer pour la chair, c'est pas, ça ne veut pas dire simplement prendre soin du corps. Le corps a été fait à l'image de Dieu, et le corps d'un croyant, c'est le temple du Saint-Esprit, et nous pouvons être assurés que le fait de bien prendre soin de son corps, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Hein, donc, cette expression, je dirais, là plutôt, elle parle plutôt de satisfaire les convoitises du corps. Hein, donc, en le gâtant, en satisfaisant ses désirs coupables, excessifs, au détriment de la partie la plus élevée de l'homme, je dirais, c'est de flatter les instincts quelque part animaux, si on peut dire, hein, dans ce sens primordial du terme, de anima, dont l'excès est le péché. Semer pour la chair, c'est semer la semence de l'égoïsme qui conduit à une moisson de corruption. Et puis, qu'est-ce que Paul dit des œuvres de la chair? Il les décrit. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, nous lisons, il en parle, il décrit les choses. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Hein, c'est vraiment un inventaire toutes sortes de choses mélangées. On aurait l'impression que certaines sont très graves et d'autres moins, mais on s'aperçoit que dans ce même sac, l'apôtre met toutes ces choses-là, parce qu'elles dénotent toutes donc, les œuvres de la chair. À l'exposition de Paris de 1867, à laquelle je n'étais pas, bon, évidemment, mais vous avez un tableau qui frappait les imaginations. Hein. Donc, paraît-il, hein, c'était une petite peinture en peinture à l'huile de 30 cm de côté environ, et le titre du tableau, c'était « Semant livré ». Semant livré, quelqu'un qui sème livré, et vous aviez là le visage du semeur qui était si horrible qu'il ressemblait plus à un démon qu'à un homme, et pendant qu'il semait son livret, vous aviez des serpents, des reptiles qui sortaient, qui grouillaient, qui grimpaient sur son corps, et tout autour il y avait des bois avec des loups, toutes sortes d'animaux féroces qui rôdaient. Vous savez, j'étais pas à Paris en 1867, mais j'ai vu quand même ces choses-là. J'ai vu quand même ces choses-là. Vous savez, le temps de la moisson vient, et si on sème pour la chair, eh bien on moissonnera la corruption. Et si on sème le vent, on récoltera quoi ? Et la tempête, c'est vrai. Mais ne pensons pas que c'est seulement de tomber dans les péchés les plus grossiers que signifie semer pour la chair. Déjà, dans la liste que Paul donnait, on pouvait s'en douter. Hein. En tout cas, tout désir, toute action qui n'a pas Dieu comme but et comme objet, eh bien, au bout du compte, c'est quand même semer pour la chair. On le voit. Hein. Si un homme sème pour une récolte d'argent, pour une récolte d'ambition pour lui-même, par exemple, il sème pour la chair et il moissonnera la corruption aussi bien que le menteur, aussi bien que l'adultère. Hein. Bien que ça puisse paraître plus raffiné, que ça puisse paraître plus respectable, eh bien que ça puisse ressembler de très près même peut-être à la bonne semence, eh bien sa vraie nature soit révélée et sa corruption aussi. Et vous remarquerez une deuxième chose dans ce point-là, c'est qu'il n'y a pas de pont entre l'une et l'autre semence. Hein. Bien des gens font l'erreur suivante. Ils sèment pour la chair et ils pensent qu'ils vont moissonner la moisson de l'esprit. Ou encore l'inverse, ils sèment pour l'esprit et ils sont désappointés de ne pas moissonner une récolte des choses de la terre. On raconte qu'un jour, un serviteur de Dieu décrivait à son auditoire le récit du mauvais riche de Lazare. Hein, l'évangile, donc. Et puis, il parlait donc de ce mauvais riche qui a vécu égoïstement pour lui-même, sans s'occuper des pauvres, sans s'occuper de Dieu, et le pauvre Lazare qui avait placé sa foi en Dieu et qui était couché à la porte du riche, et voilà, vous rappelez, les deux meurent, et le mauvais riche va dans le lieu de tourment, et le pauvre Lazare est consolé dans le sein d'Abraham. Et puis le serviteur de Dieu a posé la question, qui voudriez-vous être, l'homme riche ou Lazare ? Ah, hein ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Il y a un jeune homme dans l'assistance, il a dit, l'homme riche pendant ma vie et Lazare à la mort. Ah, ben voilà. Mais vous savez, ça, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Alors, ou c'est la chair avec la corruption, ou c'est l'esprit avec la vie éternelle. Il n'y a pas de pont de l'un à l'autre. Il faut savoir cela. Et la semence qui est semée pour une moisson spirituelle, elle n'a pas tendance à procurer des richesses de bien-être matériel. Au contraire de ce que les doctrines prônent aujourd'hui. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus a déclaré « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Justice, sous-entendu. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Matthieu 5, versets 4 et 8. Vous observez la plénitude de justice. Vous observez le réconfort divin. Il n'y a rien de terrestre en cela. Ce sont des résultats spirituels pour un travail spirituel. Il n'est pas dit que ceux qui ont le cœur pur seront rendus riches. Hein, ou que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés de mets succulents, ou que ceux qui sont affligés auront une brillante carrière et obtiendront les honneurs des hommes, hein, c'est pas marqué. Bien sûr, Dieu promet de pourvoir aux besoins de ceux qui le servent, mais chaque domaine a sa propre récolte particulière qui est réservée uniquement à sa propre façon de semer. Amen. Alors, avant de convoiter ce qu'un autre possède, eh bien, je crois qu'il faut calculer le prix auquel cela a été acquis. Hein, je me souviens du témoignage de ce frère qui avait compris cela. Donc, voilà, c'était un commerçant. Et puis, il n'avait pas un peu plus loin, il avait un concurrent. Et puis, lui, ben, il se conduisait comme chrétien. Hein, il ne trichait pas, il ne trompait pas la clientèle, etc. Mais il disait que bien souvent, ben, il n'avait pas tellement de clients, il n'avait pas énormément de clients dans ce magasin. Mais que l'autre, il y avait vraiment du monde, il y avait vraiment beaucoup de clients. Alors voilà. Et puis, il s'est dit pendant tout un temps, il se demandait mais comment ça se fait, que Dieu permet ça. Et après, il a compris. Au bout d'un moment, il a fini par comprendre, parce qu'il a appris certaines choses. Il a appris que voilà, la publicité de l'autre était souvent mensongère. Hein. Il a appris qu'il traitait ses employés d'une façon tyrannique. Hein. Il a appris que les prix bas avaient été rendus possibles par des articles de qualité inférieure. Bref, il vit dans la tromperie. Hein. Il est dans la tromperie de toutes parts. Semez la semence de cet homme, eh bien vous allez aussi moissonner sa récolte. Trichez, mentez, soyez sans scrupule dans vos affirmations, alors peut-être que la clientèle viendra à vous pendant un temps, mais si le prix est trop élevé, alors laissez-lui sa moisson et vous gardez votre moisson. Hein. C'est important cela. Une bonne conscience, un cœur pur, la droiture au-dedans et au-dehors. Est-ce qu'on veut se séparer de cela pour avoir sa récolte à lui? Ah, voilà la question. Hein, donc, semer pour l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Semer pour l'esprit, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, oui, ça implique le sacrifice de soi, ça implique la résistance au mal, ça implique l'obéissance à l'Esprit de Dieu et à sa parole, ça implique la marche dans l'Esprit, la vie dans l'Esprit, être dirigé par l'Esprit, et nous semons pour l'Esprit chacun lorsque nous utilisons nos capacités et nos moyens pour faire avancer les choses de Dieu, pour faire avancer les choses spirituelles. Quand nous soutenons et quand nous encourageons ceux qui font avancer, dirais-je, l'influence de l'Esprit qui font avancer ce que l'Esprit de Dieu approuve. Et le fruit d'une telle façon de semer, c'est quoi? Et bien là, je reviens à Galates chapitre 5, mais un peu plus loin maintenant, au verset 22, quand il est dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Et dans ce monde, eh bien, cette moisson, c'est la croissance et l'amélioration du caractère. C'est une plus grande utilité pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Et dans le monde à venir, eh bien, c'est la présence même de Dieu, c'est la vie éternelle, une merveilleuse récompense de sa part. Amen. Amen. Voici le témoignage d'un jeune homme qui était pendant la Première Guerre mondiale et il avait été employé par une grande firme de New York pour acheter une grande quantité de haricots endommagés et périmés. Voilà. Et les haricots donc, ont été achetés, ont été livrés. Donc ces hommes, c'était un chrétien. Hein. Donc achetés, livrés, répandus dans un hangar, et les ouvriers ont été employés pour les retourner et pour les arroser avec une solution d'une espèce de soda pour améliorer leur apparence et les rendre plus vendables. Hein. Et une bonne quantité de haricots de première catégorie a également été achetée. Et donc, une couche de bons haricots a été mis au fond des barils, puis les barils ont été presque remplis avec ceux qui étaient mauvais, et puis ensuite, on a remis dessus une couche de bons haricots, et les barils ont été fermés pour être vendus. Voilà. Et l'employeur a fait mettre sur les barils haricots catégorie A1. Voilà. Et le jeune homme, voyant cela, a demandé « Mais monsieur, est-ce que vous croyez qu'ils sont justes d'appeler ces haricots A1 ?» Alors, l'employeur lui a rétorqué sèchement, est-ce que c'est vous qui dirigez l'entreprise? Hein? Donc voilà, le jeune employé n'a plus rien dit. Et quand la mise en baril et le marquage ont été achevés, les haricots, donc plusieurs centaines de barils, hein, ont été mis sur le marché pour être vendus. Et les spécimens de la meilleure qualité ont été mis en magasin pour être montrés aux acheteurs. Et finalement, un client malin est entré. Vous savez, tout homme malin en affaires finira un jour par rencontrer toujours au moins son égal. Hein. Donc voilà. Donc il a examiné les spécimens, lui. Il a demandé le prix. Ensuite, il a voulu voir les stocks en réserve. Et on a ordonné au jeune homme donc de se rendre au hangar avec lui pour lui montrer les stocks. Et puis là, un baril ouvert lui a été montré, apparemment de la même qualité que les spécimens. Et l'acheteur a dit alors à l'employé la chose suivante. Jeune homme, les spécimens d'haricots qu'on a montrés sont de la première qualité. Et il est impossible de trouver sur le marché des haricots au prix où vous les vendez. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dites-moi, est-ce que les haricots sont de la même qualité dans tout le baril de ceux qu'il y a au sommet? Alors, jeune homme se trouvait dans une étrange position. Hein, il s'est dit, est-ce que je vais mentir pour mon patron? Certainement, il s'attend à ça. Ou est-ce que je vais dire la vérité, quoi qu'il arrive? Alors, il a décidé pour la vérité. Et il a dit, non, monsieur, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Alors, je n'en veux pas, dit l'acheteur. Et il s'en est allé. Et puis, entre l'employé rentre au bureau, l'employeur lui dit, alors, est-ce que vous avez vendu ces haricots à cet homme? Alors, il répondit, non, monsieur. Pourquoi pas? Eh bien, cet homme m'a demandé si ces haricots étaient de la même qualité dans tout Paris que ceux qui apparaissaient au sommet. Je lui dis que non. Alors, il a dit, je n'en veux pas, et il s'en est allé. Eh bien, vous aussi, vous allez vous en aller. Vous allez voir le caissier directement, qui vous fasse votre compte, vous êtes licencié. Il employait. Et il est allé toucher son argent et il a quitté le bureau, mais il était soulagé dans son cœur. Hein. Il se réjouissait de ne pas avoir eu à mentir dans cette occasion-là. Et 3 semaines après, alors qu'il cherchait du travail, 3 semaines après, la firme a envoyé chercher ce jeune employé. Ils avaient besoin d'un caissier, d'un homme de confiance. Hein. Mmh. Il a un caissier, il lui offrait 300 dollars de plus que ce qu'il lui avait donné auparavant. Pourquoi? Bien sûr, il savait qu'il avait eu raison, hein, même s'ils avaient perdu sur le coup, et ils savaient que leurs intérêts financiers seraient saufs sous sa garde, et quelque part, ils le respectaient et ils l'honoraient. Hein. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut quand même aussi réaliser, parce que vous savez, dans la vie, on se voit se trouver aussi les uns ou les autres dans des situations comparables. Je ne dis pas qu'on aura toujours exactement les mêmes résultats, mais en tout cas, sûr et certain que Dieu sera là pour nous soutenir. Amen. Amen. Et puis à propos de la moisson, nous l'avons dit, nous avons encore la leçon de la patience. La leçon de la patience, il faut l'apprendre. Dans Jacques chapitre 5, au verset 7, il nous est dit, « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Le fait d'attendre ne signifie pas qu'il n'y aura pas de moisson. Dans les premières années de l'existence d'Israël, comme peuple mis à part, Dieu leur avait ordonné de mettre une année de repos, donner une année de repos au pays de Canaan tous les 7 ans. C'est pour ça que dans Lévitique 25, au verset 3, il est marqué « Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel, tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. » Malheureusement, à partir du moment où Saül est devenu roi, cette loi n'a plus été observée. Et après 490 ans, Dieu a envoyé la nation en captivité pour 70 ans. Hein? 70 ans, et pendant cette période, le pays a été au repos. 70 sabbats d'année pour compenser les sabbats d'année dont il avait été privé. Et les Israélites ont semé la semence amère de la désobéissance et leurs héritiers ont eu à moissonner la récolte de l'exil et la récolte de la captivité. C'est un célèbre chirurgien, il est professeur à la faculté, qui un jour a fait une opération devant certains de ses étudiants et l'opération a été un succès, du moins en ce qui le concernait, mais il s'est tourné ensuite vers son assistance. Et il leur a dit, il y a 6 ans, une façon de vivre raisonnable aurait évité cette maladie. Il y a 2 ans, une opération simple et sans danger l'aurait guéri. Nous avons fait de notre mieux maintenant, dans la situation présente, mais la nature aura son mot à dire. Hein. On pourrait dire, le créateur aura son mot à dire. La nature ne tire pas toujours des situations extrêmes. Et le lendemain, effectivement, le patient est mort, récoltant les fruits de son excès et de son insouciance. Vous savez, c'est quelque chose, là encore, qui se produit souvent. L'apôtre Paul nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Galates chapitre 6 et au verset 9. Edison, qui a été l'inventeur du phonographe, a prêché inconsciemment un puissant sermon en faveur de la patience et de la persévérance. Et il décrit ses efforts répétés pour faire reproduire un certain son au phonographe. Donc, et pendant 18 heures par jour, pendant les 7 derniers mois, dit-il, j'ai travaillé sur un seul mot spécial. Un mot spécial. Voilà. Et il dit, je disais dans le phonographe, spécial, spécial, spécial. Mais l'instrument répondait spécial, spécial, spécial. Et c'était assez pour me rendre fou, mais j'ai tenu ferme et j'ai réussi. Voyez-vous, hein, on s'imagine des fois que les choses, les inventeurs ont des idées de génie qui leur apparaissent là comme ça dans la tête et puis que ça se réalise facilement et directement, mais c'est pas comme ça la plupart du temps. Hein. Il y a eu aussi un grand avocat qui a vécu à la 19e siècle, si je me souviens bien, qui s'appelait Daniel Webster, aux États-Unis. Et là aussi, un jour, on a exposé à Daniel Webster une cause à défendre alors qu'il était encore un jeune avocat. Et il n'y avait qu'une somme relative modeste qui était en jeu, les honoraires étaient minces, et il a vu que pour vraiment rendre justice à son client, il lui fallait faire un déplacement assez important pour consulter une bibliothèque juridique, et il en serait de sa poche. Il a calculé, il n'y aurait pas de compensation pour le moment, mais il a décidé quand même de faire de son mieux, quoi qu'il en coûte, et donc il a gagné sa cause. Et des années plus tard, Webster, donc, qui est devenu célèbre, est passé par New York, et là, il y a une importante affaire qui devait être traitée ce jour-là, et un des hommes de loi qui s'en occupait était tombé soudainement malade. Alors, on a prié Webster de se charger de la cause, on lui a dit, vous savez, l'argent, c'est pas un problème. Alors, Webster a dit, je leur dis qu'il était trop tard pour préparer une défense convenable en quelques heures. Ils insistèrent tout de même pour que je jette un coup d'œil sur les papiers. Finalement, j'y consentis. C'était le même cas exactement que j'avais eu étant jeune. J'avais tous les arguments dans l'esprit. La cour fut étonnée de voir les arguments que j'avais pu préparer en si peu de temps. Je fus donc largement payé en retour de mes efforts apparemment sans fruit de mes jeunes années. Et il disait, la morale, c'est que le bon travail finit toujours par être récompensé. Et ça, c'est important à considérer. Hein. Et ainsi, en sera-t-il pour vous si vous vous engagez, si vous persévérez dans l'œuvre de Dieu? Le bon travail finira toujours par être récompensé. Alléluia. Hein. Dans le livre de l'Ecclésiaste, vous avez cette parole qui nous servira de conclusion. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Amen. Il y aura un temps où nous récolterons tous, hein, les uns les autres. Eh bien, voilà pourquoi il est si important de se tourner vers Dieu, de lui confier notre vie, de persévérer dans son amour et de persévérer dans la foi avec son fidèle et puissant secours.
Amen.
Amen. Amen. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons, parce que tu es celui qui ainsi nous avertit et nous fait comprendre ces choses dont nous voyons bien la justesse et la justice tout à la fois. Nous te remercions parce que tu es celui qui non seulement nous invite à semer de la bonne façon, mais tu nous fournis la bonne semence, et puis tu es celui qui donne la vie à cette semence, et tu es celui qui va encore nous aider pour que nous fortifier, pour que nous puissions moissonner de la bonne façon. Nous te remercions parce qu'avec ton soutien, avec ton secours, eh bien, il est parfaitement possible de marcher dans cette voie de fidélité, dans cette voie de justice. Il nous suffit tout simplement de nous confier en toi et de le faire en ce jour, et de le faire ensuite dans les jours qui viennent, et de le faire jour après jour et moment après moment. Et nous te remercions parce que nous savons que tu es toujours fidèle et bon, toujours tout puissant pour soutenir ceux qui se confient en toi. Et merci Seigneur pour la bonne œuvre que tu opères tout spécialement en faveur de ceux qui se tournent vers toi maintenant même. Amen, amen. Donc nous restons dans le recueillement. Y a-t-il quelqu'un qui veuille se tourner vers le Seigneur ?